podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Diffusée en février 2009 sur la Fox, la première saison de Dollhouse, nouvelle série de Josh Whedon, était l'un des événements télévisuels les plus attendus de l'année précédente. Durant 13 épisodes à la conception chahutée, il nous plonge dans un futur pas si lointain pour suivre les aventures d'Echo, poupée humaine, constamment formatée et imprimée de nouvelles personnalités à chaque épisode. Pour en parler aujourd'hui, Tilman Villette.
Bonjour.
Et pour en discuter avec nous, Sarah Sepulcre.
Bonjour.
Et Nathanaël Picasse.
Bonjour.
Alors Tilman, on plonge donc aujourd'hui en pleine science-fiction.
Eh bien oui, en pleine science-fiction, il semblerait que Joss Whedon ait pris goût à la science-fiction après sa série Firefly, qui s'est malheureusement arrêtée très rapidement. Ici, on n'est quand même pas aussi loin, je dirais, dans le temps. Ça se passe de nos jours, mais c'est un univers totalement science-fictionnel également. La Dollhouse, qu'est-ce que c'est? Donc, si on doit le traduire, c'est la maison de poupée. C'est un laboratoire dont l'existence, en fait, serait maintenue secret, qui appartiendrait à la Rosum Enterprise, entreprise Rosum, une entreprise multinationale, qui aurait donc une branche secrète qui serait placée dans chaque grosse ville du monde, où il y aurait une Dollhouse, qui est une sorte donc de grosse maison, un centre futuriste, qui abrite donc des dolls, des poupées, des hommes, des femmes, qui sont programmés pour accomplir finalement certaines missions, des missions totalement différentes. Alors, les dirigeants de la Dollhouse appellent ces poupées des actifs. Ce sont leurs actifs, leurs employés en quelque sorte. Ils peuvent donc réaliser des missions pour devenir l'amant de quelqu'un, pour devenir le petit ami pour une soirée ou la petite amie pour une soirée. Également devenir un tueur à gages. Ensuite devenir un négociateur lors de kidnapping. Voilà, donc ces poupées peuvent revêtir finalement quasi toutes les professions, tous les rôles, suivant finalement la demande de chacun, puisque ce sont des personnes qui viennent les engager pour réaliser ces tâches-là. Comment peut-on finalement mettre la personnalité de telle ou telle personne dans la poupée? Tout simplement grâce à un programme scientifique et technologique qui a été lancé, donc la Dollhouse. On peut effacer la mémoire au fur et à mesure des personnes et la réimprimer avec d'autres mémoires, finalement fabriquées de toutes pièces ou parfois existantes à partir d'éléments d'autres personnes pour en faire des êtres finalement prêts à réaliser tout type de mission. On suit donc principalement dans la série Dollhouse les aventures de Echo, qui est une poupée qui donc se trouve au sein de la Dollhouse de Los Angeles. Echo, comme toutes les autres poupées, donc est imprimée régulièrement et effacée régulièrement. Sauf qu'à un moment donné, Echo commence à avoir des souvenirs de sa vie passée, puisque ce sont des êtres faits de chair et de sang, c'est pas des robots. Elle commence à avoir des souvenirs de sa vie passée où elle s'appelait Caroline Bennett.
Et d'ailleurs, le secret est très vite éventé dès le premier épisode, d'ailleurs, où on voit qu'elle avait été arrêtée par la police et que c'était un peu sa porte de sortie, un peu comme le film Nikita de Luc Besson, où voilà, la porte de sortie, c'est devenir une agent secret, quoi.
Voilà, donc il y a plusieurs en fait possibilités pour devenir une poupée. Il y a l'engagement personnel. Donc après avoir entendu parler de la Dollhouse, il y a certaines poupées qui décident donc de s'engager personnellement. On a le cas d'une poupée qui s'appelle November, qui a décidé de devenir une doll. Pourquoi? Parce que elle avait perdu sa fille, sa petite fille était morte, et donc le chagrin était insupportable pour elle, donc elle préférait être effacée pendant une période de temps pour après ne plus avoir de souvenirs justement de la mort de sa fille. On a d'autres personnages comme Sierra, qui s'appelle en fait Priya, mais son nom de poupée c'est Sierra, qui elle était une schizophrène, mais on apprendra, mais ça c'est à partir de la saison 2, qu'elle a un autre passé, mais soit au début. Et c'est une schizophrène qui a été soignée finalement par la Dollhouse pour avoir une personnalité, je dirais, saine. En même temps, elle n'a plus de personnalité, donc d'office, c'est sain. L'autre personnage aussi, Victor, lui qui est un rescapé de la guerre en Irak, et il est devenu un peu fou, quoi. Il était hanté de cauchemars, de guerre, etc. Donc là, ses supérieurs ont décidé de le faire devenir une poupée. Dans le cas qui nous intéresse, Echo ici, c'est effectivement Caroline Bennett qui a été arrêtée. C'est une sorte d'activiste écologiste terroriste, un petit peu quand même, qui a été arrêtée et qui aurait dû normalement aller en prison, sauf qu'elle a essayé d'atteindre la compagnie Rosum, qui fait des tests sur les êtres humains. Elle n'a pas été arrêtée par la police, évidemment, elle a été arrêtée par Rosum, qui lui a proposé donc finalement de rejoindre la Dollhouse, ou sinon elle allait en prison. On voit tout au début du premier épisode, c'est une longue discussion entre la directrice de la Dollhouse de Los Angeles, qui s'appelle Adele DeWitt, et Caroline, pour savoir si finalement elle va accepter ou va pas accepter La scène d'après, on se rend compte que Caroline est une poupée et qu'elle est partie en mission. Elle devient Echo puisqu'elle n'a plus de personnalité propre, elle n'est plus Caroline Bennett, elle n'a plus de souvenirs de sa vie en Caroline Bennett. Elle devient Echo et donc elle réalise les missions finalement qu'on lui confie. Sauf que au fur et à mesure de la saison, ses souvenirs commencent à revenir et des souvenirs même de personnages qu'on lui avait imprimés par la suite.
Une fois qu'ils sont effacés, c'est définitif ou bien leurs données sont gardées quelque part et ils peuvent récupérer leur personnalité?
Voilà, donc c'est toujours un engagement pour une période de temps déterminée. Normalement c'est 5 ans. On garde effectivement la personnalité sur une sorte de disque dur qui est classé et rangé dans une sorte de coffre-fort. Donc pour que après au terme des 5 ans, on puisse réimprimer le corps avec la personnalité d'origine et la personne qui aura été réimprimée avec sa personnalité d'origine aura l'impression qu'elle s'est juste assoupie pendant 2 minutes. Or 5 ans se seront écoulés.
Pas 50, imagine le nombre de mises à jour qu'il faut faire après.
Oui, évidemment, il y a une sacrée mise à jour d'un point de vue de l'avancement de la technologie aussi. On peut se poser la question aussi, en effaçant la mémoire, est-ce que les programmateurs effacent la totalité de la personne? Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière un petit peu cette question de l'âme? Est-ce que, justement, le fait qu'Echo se rappelle des choses, est-ce qu'il n'y a pas un fond qui reste malgré tout la personne, même si les souvenirs s'en vont?
Et aussi la mémoire du corps?
Évidemment, puisque quand Echo réalise des missions, parfois elle se fait blesser, parfois elle a des cicatrices. Par après, ce sont des choses qui seront marquées à vie aussi. Donc voilà, c'est une société qui est secrète, qui n'est pas au grand jour, qui est même clandestine dans le sens où illégale, un petit peu aussi. On fait quand même certaines missions, c'est légèrement de la prostitution déguisée, mais c'est la prostitution. À côté de ça, il y a quand même une cellule auprès du FBI qui enquête sur la Dollhouse, puisque la Dollhouse est censée être une légende urbaine. On a dépêché un agent, Paul Ballard, sur cette enquête-là, qui va s'échiner à essayer de retrouver Caroline Bennett, qui aurait disparu chez Rozum, et qui lui est convaincu qu'elle a disparu et qu'elle a été engagée par la Dollhouse. Donc on suit également en parallèle de la vie dans la Dollhouse et des activités de la Dollhouse, l'enquête de cet agent du FBI. Pour ce premier extrait, je propose peut-être qu'on écoute le tout début du premier épisode de la saison 1 de Dollhouse. Donc c'est la discussion entre Caroline et Adèle DeWitt, la directrice de la Dollhouse Los Angeles, lors de l'engagement un peu forcé finalement de la future Echo, et on voit que l'échange est assez musclé.
Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent.
Moi, ça me semble plutôt clair.
Parce que vous ne voyez qu'une partie des choses. Moi, je vous parle d'effacer une ardoise.
Vous avez déjà essayé d'effacer une ardoise. On voit toujours ce qui était écrit dessus avant.
Alors, vous portez-vous volontaire?
Je n'ai pas le choix, je crois. Comment j'en suis arrivée là?
Caroline, toute action a des conséquences.
C'est dingue, vous adorez ça, on dirait.
Désolée que vous ne saisissiez pas la chance que je vous offre. Mais notre action aide beaucoup de monde. Si vous décidez d'y prendre part, ça peut aussi vous être d'un grand secours.
Je vois. Alors, vous me protégez, c'est ça?
Peut-être mieux que vous ne l'avez fait. Nous pouvons nous charger de ces désagréments. Après un terme de 5 ans, vous serez libre
de... Pas ça. J'essayais juste de changer les choses. J'essayais de trouver une place dans le monde. C'est ce qu'elle disait toujours, et maintenant... Je sais. Je sais. Toute action entraîne une conséquence.
Et si ce n'était pas le cas?
Tu l'as dit juste avant, ce sont des personnages qui ont perdu toute leur personnalité. Est-ce que ces personnages ont un intérêt pour le téléspectateur ou pas?
Oui, ils sont assez intéressants dans le sens où à chaque épisode, elles sont imprégnées d'une autre personnalité. Donc ça devient à chaque fois des autres personnages avec même un prénom et un nom la plupart du temps. Maintenant, effectivement, quand elles sont désimprimées, ça devient des sortes de coquilles un peu à garde qui s'amusent à faire du yoga, de la peinture et prendre des douches. Ça, bon, c'est assez limité. À côté de ces poupées, il y a d'autres personnages également. Donc au moment où les personnages poupées sont désimprimés, ce sont ces personnages-là qui prennent le relais, je dirais. Dans ces personnages secondaires qui entourent donc les poupées, on a notamment les chaperons, parce que chaque poupée, quand elle part en mission, a un chaperon qui est censé vérifier à quelques mètres de là que l'opération se passe bien, qui n'est pas un problème par rapport à la poupée, qui n'est pas un problème par rapport au client non plus, qui demanderait quelque chose pour lequel il n'a pas signé. Et donc, pour Echo, on a son chaperon qui est un nouveau chaperon aussi, Boyd Langdon, qui est un ancien policier qui est employé par la Dollhouse pour donc garantir la sécurité d'Echo et de ses clients. Au fur et à mesure de la saison, ce Boyd Langdon devient un petit peu une sorte de père pour Echo, dans le sens où il culpabilise un petit peu de devoir la laisser parfois aller dans des missions soit dangereuses ou soit à caractère sexuel, mais en même temps il la considère de plus en plus comme sa fille, comme quelqu'un vraiment à protéger, même alors qu'elle est désimprimée. C'est un des premiers qui commence à remarquer que Echo commence à avoir des souvenirs de sa vie précédente et surtout de ses vies qu'elle a pu accumuler jusque là. À côté de ça, on a aussi donc Topher Brink, qui est donc un petit peu le savant fou, qui s'occupe donc des poupées pour les imprimer, les désimprimer, pour mettre au point parfois des gadgets un petit peu farfelus, je dirais. Il est fasciné par la science, par le contournement des lois aussi, parce que Topher Brink, il faut savoir qu'il n'a aucune morale. Pour lui, finalement, tout ce qu'il fait, c'est super, du moment que c'est au nom de la science. Il n'est pas l'inventeur de la technologie des poupées, mais c'est lui qui l'améliore au fur et à mesure, qui permet justement d'avoir des upgrades dans les impressions de poupées, etc., et qui gère logiquement aussi les situations catastrophiques quand un des logiciels commence un petit peu à déconner sur une des poupées. On a Adèle DeWitt, qui est la boss de la Dollhouse, une anglaise sophistiquée, qui est très froide, qui est cassante, qui a un humour vraiment plus noir que ça, c'est très difficile de trouver. Elle dirige la Dollhouse avec efficacité, de manière vraiment impitoyable. Elle liquide des gens comme ça, parfois des chaperons qui font mal à leur travail, elle les liquide tout simplement, elle les tue. Ou elle les met parfois ce qu'ils appellent la remise, c'est là où ils cassent les poupées qui sont défectueuses, je dirais, et donc la remise, c'est un petit peu un grenier. On n'entend pas trop parler de la remise dans la première saison, on sait juste que c'est un endroit où il faut absolument pas aller, et absolument pas être remisé surtout, parce que c'est encore pire que la mort, semble-t-il. Cette Adèle DeWitt, je pense qu'elle préférait plutôt mourir que montrer ses sentiments, parce qu'au fur et à mesure de la saison, elle a quand même des petits sentiments envers une des poupées qu'elle imprime régulièrement pour s'en faire un petit rendez-vous coquin les week-ends, mais en secret. On a également donc Paul Ballard qui est l'agent du FBI qui cherche depuis bien longtemps cette pauvre Caroline. Il entre en contact avec sa voisine de palier qui est en fait une poupée déguisée, poupée infiltrée pour justement pouvoir centraliser, canaliser l'enquête de Paul Ballard pour qu'il n'approche pas trop de la Dollhouse. Ça, c'est les personnages, je dirais, vraiment centraux de cette première saison.
Donc, ça veut dire que certaines poupées ont des missions qui durent sur très longtemps.
On apprend que certaines poupées sont parfois en mission depuis des dizaines d'années. Elles ont l'impression qu'elles vivent la vie qu'elles vivent actuellement. Donc, ça peut, par exemple, être l'épouse d'un trafiquant, quoi que ce soit, et elles sont comme ça depuis plusieurs années. Sauf qu'à un moment donné, il y aura un signal, c'est souvent une parole déterminée dès le départ, qui va les faire déclencher et à ce moment-là redevenir en l'état soit de poupée, soit carrément de machine de guerre parfois. Juste avec une phrase comme ça qui ferait déclencher une autre partie de leur personnalité.
Et ça veut dire aussi que certaines poupées ne redeviennent jamais qui elles étaient avant sur les remises.
En fait, les poupées qui sont remisées normalement sont ressorties. On peut ressortir de la remise, mais notamment un des chaperons qui a mal fait son travail à un moment donné se retrouve donc vidé de sa personnalité et mis à la remise. Donc là, effectivement, il est liquidé. Ça revient à nouveau dans la saison 2 et on approfondit cette question de la remise dans la saison 2, mais en tout cas dans la saison 1, c'est vraiment censé être l'enfer, cette remise. Au mieux vaut ne pas y aller. À partir de l'épisode 6, tout pourrait se passer dans le meilleur des mondes, à chaque épisode une nouvelle personnalité, mais à vrai dire ça serait pas très intéressant parce que la série pourrait durer 20 ans sans forcément montrer de fil conducteur super passionnant.
Le syndrome du caméléon dans les premières saisons.
Voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive dans les 6 premiers épisodes où c'est sympa mais sans plus. Heureusement, à partir du 6e épisode, les poupées, à un moment donné, se réveillent et ont toutes récupéré leur personnalité. Et elles se retrouvent dans la Dollhouse avec leur personnalité d'origine et vont essayer de comprendre ce qui leur arrive. C'est un dysfonctionnement de la Dollhouse à un moment donné. C'est un épisode intéressant parce que on apprend beaucoup sur le passé de ces personnages-là, de tous les personnages, mais également on apprend la mythologie de la série. Qu'est-ce qui s'est passé à la Dollhouse avant qu'on arrive nous dans l'histoire? Il y a eu un massacre dans la Dollhouse, on apprend une poupée qui s'est complètement révoltée, qui a dégénéré, qui s'est imprimée des centaines et des centaines de personnalités, qui les a toutes intégrées, qui a massacré des docteurs, etc., qui a juste laissé une seule personne dans la Dollhouse à ce jour-là, c'était Echo. Et donc Echo est la seule survivante de ça, on se demande un peu pourquoi. Et tous les épisodes qui vont suivre, on a toujours cette ombre de la poupée masculine qui s'appelle Alpha, qui aurait dégénéré, et cette ombre menaçante qui est derrière, puisque on voit que Alpha essaie de rétablir le contact avec Echo, et surtout de réinvestir la Dollhouse. Donc c'est à ce moment-là que je dirais que ça devient réellement intéressant, et on se pose également à ce moment-là les questions de fond sur est-ce qu'on peut accumuler plusieurs personnalités, est-ce qu'en chacun de nous il y a plusieurs personnalités, est-ce qu'on peut choisir qui l'on va l'être un jour ou pas. Le personnage d'Alpha amène toutes ces questions-là et c'est là que ça devient réellement intéressant. Je propose qu'on écoute l'extrait toujours dans l'épisode 1 de la saison où Echo revient d'un engagement, se fait désimprimer. Donc là, il y a toujours une sorte de petit rituel où quand elle se réveille, toutes les poupées disent toujours « Est-ce que je me suis endormie ?» Topher Brink répond toujours « Juste un moment ». C'est toujours ce petit rituel-là. Donc elle se fait désimprimer à la suite d'un engagement et puis Boyd, son chaperon, discute de l'éthique un peu de la Dollhouse avec ce Topher Brink. Le scientifique sent vraiment beaucoup de morale, lui.
Salut, Echo. Comment te sens-tu?
Je me suis endormie.
Pas très longtemps.
J'ai le droit d'y aller?
Ouais, si tu veux.
Ça s'est bien passé, l'effaçage.
Pourquoi ne pas le demander à Echo? Oh, c'est vrai, c'est parce qu'elle ne s'en souvient pas. Bien sûr que ça a été. Implantation effacée. La nouvelle lune lui a redonné sa virginité. Pourquoi? Ça n'aurait pas dû. Quelque chose s'est passé pendant l'engagement.
Je crois qu'elle avait enfin rencontré le bon garçon.
Oh, vous êtes assommant. Tout ça, c'est tellement vieillot. Elle s'est amusée, non?
C'est ce qu'elle croit.
Et moi, je pense qu'il n'y a ni bien ni mal là-dedans, excepté ce qu'on en pense, mon vieux. On a donné à deux personnes un parfait week-end en amoureux. On est de grands humanistes.
Qui se retrouveraient tous en prison si on découvrait cette boîte.
On est tous des incompris. Tout comme la plupart des grands humanistes. Regardez, Echo. Aucun souci dans ce monde. Elle vit le rêve absolu.
Mais le rêve de qui?
A priori, ce concept a l'air plutôt sympa et intéressant. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas marché?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, la Fox n'a pas vraiment fait un joli cadeau à Josh Whedon en diffusant sa série le vendredi soir, qui est un petit peu la plage morte. La série a commencé aux alentours de 7-8 millions avant de s'effondrer rapidement. Cette première saison a vraiment stagné à 4-5 millions mais jamais plus. Bon, pour un vendredi soir c'était très bien, mais malheureusement pour une série comme Dollhouse avec les moyens qu'elle demandait, je pense que c'était vraiment pas du tout suffisant. Alors il y a également d'autres problèmes avec Dollhouse, hein, c'est que les 6 premiers épisodes ne lancent aucune mythologie, il n'y a pas de fil conducteur entre ces épisodes presque, à part les personnages. Ce n'est pas forcément de la faute de Josh Whedon non plus, puisqu'il avait réalisé un pilote qui a été refusé par la Fox à nouveau. Donc on se retrouve avec le problème qu'il avait eu avec Firefly, diffusion d'épisodes dans des états pas possibles, avec parfois diffusion dans un mauvais ordre chronologique. Ici c'est presque ça aussi, puisque le premier épisode, le pilote, est refusé. On diffuse un épisode où finalement on se retrouve avec... Tout est déjà comme ça, on a juste nous à comprendre ce qui est un peu en train de se produire là-dedans. Puis on insère dans le deuxième épisode des images du pilote, clic-ploc, on charcute cet épisode-là en mettant des flashbacks. Voilà, je pense que c'était réellement pas un cadeau fait à la série dès le départ, d'avoir utilisé cette suppression de pilote et après ce saucissonnage dans les premiers épisodes.
Les fans rêvent d'un Director's Cut dans la version DVD, je suppose.
La version DVD, normalement, reprendra ce fameux épisode pilote et reprendra donc un épisode jamais diffusé, l'épisode 13 de la saison 1, qui s'appelle Epitaph Partie 1. Pourquoi Epitaph? L'épitaphe, c'est ce qui se trouve sur les tombes, normalement. Cet épisode, en fait, a été tourné pour deux raisons. Tout d'abord, parce que la première saison, Josh Whedon avait signé pour faire 13 épisodes et était tenu de faire 13 épisodes. Or, comme son pilote a été refusé, il n'y avait que 12 épisodes, donc il a dû tourner dans l'urgence un 13e épisode que la Fox lui demandait absolument. Seulement, il avait prévu du budget pour ces 13 épisodes qui ont été tous utilisés. Donc ce 13e, normalement, avait un budget minuscule. Donc il a quand même dû le tourner avec 3 bouts de ficelle. Épisode donc qui n'a pas été diffusé directement et qui aussi donc aurait normalement dû servir de clôture si la saison 1 n'était pas reconduite, puis vu les résultats malheureux d'audience. Vu que la série a été reconduite malgré tout, ils ont décidé... après plusieurs mois de diffuser quand même cet épitaphe pour les fans, je dirais, et de le mettre sur le DVD. Alors c'est un épisode qui est vraiment particulier, et c'est assez étonnamment l'un des plus réussis de la saison. On a vraiment effectivement pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de décors très différents, et pourtant c'est l'épisode qui pose les meilleures questions, qui donne vraiment des réponses justement à certaines questions qui se trouvent dans la saison 1. En fait, c'est un épisode qui se passe 10 ans après les événements de la saison 1, où on voit que le monde est devenu complètement dégénéré. Il y a des sortes de gens qui courent dans les rues, qui agressent les autres, presque comme des zombies. On a l'impression au début que c'est un film de zombies, avec des personnages qui essaient de s'enfuir de ce chaos. Le monde est en ruine, presque. Ces personnages qui s'enfuient découvrent la Dollhouse par hasard et ils découvrent qu'en fait ça vient de là le problème qui se passe actuellement en surface et que Rozum aurait au bout d'un moment déconné. Il aurait créé une sorte de pistolet, mais ça on en reviendra plus dans la saison 2, pistolet où on pourrait finalement enlever la personnalité des gens rien qu'en leur tirant dessus et la réimprimer avec autre chose. Et donc finalement on a un monde qui est complètement devenu dégénéré où plus personne n'a la bonne personnalité, parfois des enfants ont des personnalités d'adultes, des adultes ont des personnalités d'animaux, enfin des choses complètement folles. C'est la fin du monde presque. Et à la fin de cet épisode épitaphe, on retrouve certains personnages de la Dollhouse malgré tout qui étaient encore soit cachés dans la Dollhouse soit qui reviennent dans la Dollhouse pour finalement essayer de sauver le monde, mais l'épisode s'arrête là. Bon, c'est une fin sans être réellement une fin. Il faut savoir que dans la fin de la saison 2, il y aura un épitaphe partie 2, mais qui n'a pas encore lui été diffusé et qui, à mon avis, la clôturera définitivement la série. Sauf si on permet à Josh Whedon à nouveau de faire un film, peut-être sur Dollhouse, comme il a pu le faire sur Firefly.
Ta conclusion?
Alors, ma conclusion, c'est que c'était une première saison mitigée, effectivement, parce que le début, je suis resté assez perplexe. La fin est devenue vraiment passionnante, donc c'est quand même, dans l'ensemble, une série sympa, une saison sympa aussi, avec un joli potentiel. Pour avoir vu les épisodes de la saison 2, je peux vous dire que le potentiel est bien exploité dans la saison 2. Dommage que ça s'arrête là. Maintenant, c'est vrai que peut-être que si la série ne s'arrêtait pas, la saison 2 n'aurait peut-être pas été du même niveau non plus.
Si aussi, c'est le choix aussi du casting, hein, pour l'héroïne principale était un petit peu limite.
Oui, voilà, Elijah Dushku qui a du charisme mais qui a le talent d'une endive, hein. Il faut quand même l'avouer. Donc, elle a 3 expressions à son registre et malheureusement, elle est très belle, mais c'était peut-être pas le meilleur choix de casting non plus.
Elle a pris des cours avec Wentworth?
Oui, c'est un peu ça, mais lui, il a même pas le charisme, en fait, je pense. Donc, mais voilà, mais par exemple, une actrice habituée de Whedon comme Amy Acker aurait pu faire une très bonne écho, je pense, mais elle était certainement moins bankable que Dushku.
Faut savoir quand même que ça faisait un moment que Whedon voulait absolument faire une série avec Dushku et tous les projets avaient été annulés.
Dushku est une amie de Whedon, hein, et d'ailleurs, ils ont élaboré le concept de la Dollhouse à deux lors d'un dîner quand Dushku se posait des questions sur sa carrière de comédienne, sur son identité en tant qu'actrice. Cette idée est venue de là finalement, ils ont creusé un petit peu et puis ils ont mis à jour une sorte de mythologie comme ça. Et d'ailleurs, elle est productrice également du show.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.